France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Victoria Kennel. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Fool d'Adrian Lenker. Vers 19h50, pardon, le grand tour de Marie Sorbier qui nous propose ce soir une nouvelle écoute de l'épisode dans lequel elle se rendait à l'exposition Jacques Lacan au Centre Pompidou, Metz. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Jean-Guilain Meige à la prise de son. Bonsoir Victoria Kennel.
Bonsoir.
Vous êtes en ce moment et jusqu'au 6 avril à l'affiche du Théâtre du Rond-Point à Paris dans Nom, N-O-M, adaptation du roman de Constance Debray, mise en scène par Hugues Jourdain. On a pu vous voir cette saison dans Extinction, spectacle signé Julien Gosselin, mais aussi dans Finlandia, mise en scène par Pascal Rambert. On vous verra dans quelques temps dans un spectacle mis en scène par Lorraine de Sagazan. Beaucoup de belles occasions pour vous accueillir ce soir et revenir sur des moments importants dans votre parcours, pour en savoir un peu plus sur vos méthodes de travail. Alors, de l'enfance, de l'adolescence, je ne sais pas grand-chose. Si ce n'est les premières années à Reims, les suivantes à Biarritz, deux villes, deux ambiances.
Ah oui, tout à fait, oui.
Puis le Conservatoire des Théâtres de Bordeaux, avant l'ESPAD, École professionnelle supérieure d'art dramatique du Nord-Pas-de-Calais à Lille, devenue aujourd'hui l'École du Nord, adossée au Théâtre du Nord, Centre dramatique national. C'était l'école qui a été fondée, qui était alors dirigée par Stuart Side. On va y revenir, mais tout de même, pourquoi le théâtre? Est-ce qu'il y avait un environnement familial ou amical, un rapport particulier au spectacle vivant, ou est-ce que c'était le goût des textes?
Non, alors c'était pas le goût des textes, c'était j'ai fait du théâtre assez rapidement, enfin quand j'étais enfant, mes parents m'ont inscrite au théâtre assez jeune. Je crois que c'est parce que bon, j'étais assez exubérante et aussi parce que j'avais une drôle de voix dont j'étais un petit peu, voilà, dont j'étais pas forcément fière. Une voix très grave, très cassée. Et je crois que mes parents se sont dit que peut-être ça pouvait être une force au théâtre. Donc j'ai fait du théâtre assez jeune.
Jeune, c'est-à-dire?
Oh, vraiment 4-5 ans.
Ah oui, d'accord, ouais, très jeune, oui.
Oui, je me rappelle d'un magicien d'Oz où je faisais une sorcière et j'avais 5 ou 6 ans. Voilà. Et tout de suite, je m'y suis sentie très bien. Il y avait quelque chose d'assez évident. Voilà. Ensuite, je crois que j'en ai toujours un peu fait dans ma vie. Peut-être à l'adolescence, il y a eu des petites pauses parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient un petit peu plus que le théâtre.
Les garçons.
Les garçons. J'habitais à Biarritz, donc la plage, le scooter.
Le
surf, non. Les surfeurs, oui. Voilà, mais je faisais quand même un petit peu de théâtre. Et puis, quand j'ai fini le lycée, je savais pas exactement quoi faire. J'ai fait du droit, c'était un peu la voie principale. Enfin, quand on savait pas trop quoi faire, quoi. Et puis j'ai fait un an de droit. Ça m'intéressait, mais je sais pas. J'avais la sensation qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je suis allée au conservatoire à Bordeaux, conservatoire Jacques Thibault. J'ai poussé la porte. J'ai demandé au guichet comment on faisait pour faire du théâtre. Et on m'a expliqué qu'il y avait un concours d'entrée, tout ça. Mais je n'y connaissais à ce point rien que quand on m'a expliqué qu'il fallait que je joue des scènes. Donc j'avais jamais trop lu de théâtre. Je n'avais que la sensation de moi sur un plateau, voilà, jouant. Mais je n'avais aucune culture théâtrale. Donc je suis allée dans une librairie, j'ai cherché, j'ai trouvé du Tchekhov. J'ai ouvert Oncle Vania au hasard. Voilà, je savais même pas qu'il fallait une réplique. Donc j'ai demandé à des amis, il y en a une qui s'est dévouée. J'ai passé ce concours à Bordeaux, j'ai été reçue, et dans un cycle où on faisait 15 heures de théâtre par semaine.
Ah ouais.
Donc en fait, très vite, ça a beaucoup fait partie de ma vie. J'ai continué le droit parce que mes parents souhaitaient que j'aie une licence. Et puis voilà, mais la machine était lancée, si je puis dire.
Et vous avez eu vent de cette nouvelle école ? À Lille ?
En fait, j'ai vraiment suivi les gens. Enfin, la première année, j'ai découvert tout ça. J'ai rencontré des gens qui voulaient en faire leur métier. Et puis la deuxième année, j'ai découvert les concours. Voilà, les concours des grandes écoles. Donc, j'ai suivi les gens qui le faisaient. Et donc, j'ai passé les mêmes écoles que... Enfin, en fait, j'ai suivi les autres, quoi.
D'accord.
Et donc, il passait Lille, cette école. Il y avait eu une promo. Et donc, voilà, j'ai passé le Conservatoire de Paris. J'étais reçue au deuxième tour. Et puis, après, c'était la fin de mon tour de piste. Mais j'étais très impressionnée. J'avais jamais... Enfin, en fait, c'était beaucoup d'un coup, quoi. Et puis, j'ai passé Lille et j'ai été reçue. Donc, je suis partie vivre à Lille.
Et voilà. Dans cette école du Théâtre du Nord, vous allez rencontrer des camarades qui vous fonderaient à la sortie, en 2009, la compagnie « Si vous pouviez lécher mon cœur ». C'est Julien Gosselin, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Guillaume Bachelet, Alexandre Lecroix et Tiphaine Raffi. On va écouter cette dernière parler justement de l'enseignement de Stuart Side, de ce qui lui en reste. C'est évoqué cela quand je l'ai reçu dans cette émission en janvier 2022.
Il me reste des phrases comme des mantras à qui tu parles, des adresses d'acteurs, en fait, des choses quand tu te tournes, tu dois parler plus fort. Lady Macbeth n'est pas une pute. Enfin voilà, des choses comme ça en fait qui sans cesse me reviennent et on sait un peu la boîte à outils de l'acteur quand il y a une direction d'acteur qui pêche un peu, quand on n'est pas beaucoup accompagné par le metteur ou la metteuse en scène. Voilà, on est bien outillé quand on a travaillé avec Stuart Side et ça se sait dans le métier.
Et pour vous, alors, Victoria Canel, qu'est-ce qui reste de cet enseignement de Stuart Side?
Ben c'est drôle, j'aurais pu vraiment employer des mots très similaires. En fait, moi, je parlerais de colonne vertébrale. Enfin, il y a vraiment quelque chose où... c'est drôle, je l'ai revu là, il y a quelques jours, j'ai passé une soirée avec lui parce qu'il est venu au rond-point voir le spectacle. Et on est restés tous les deux à discuter. Et il m'a redit des choses et j'ai l'impression que ces mots ne m'ont jamais quitté. Je réentendais ces phrases, bon, on s'était pas vu depuis 10 ans, 15 ans. Mais en fait, ces mots sont toujours en moi. Et effectivement, je pense que pour tous les gens qui sont passés par l'enseignement de Stuart, il y a des choses qui sont tout simplement impossibles. Par exemple, je ne peux pas ne pas regarder mon partenaire... avec mon corps, enfin je suis obligée de le regarder avec mon corps, c'est-à-dire si je suis un peu désaxée comme ça, j'ai tout de suite une voix dans ma tête, ou des petites voix comme ça qui résonnent. On ne peut pas se mettre sur le même plan sur scène que son partenaire, sinon on entend même plan, même plan, même plan dans sa tête. Voilà. Il parlait beaucoup par image, c'est pour ça que c'était très impactant. Et aussi, il avait un regard... très exigeant. Moi, il me faisait peur. Hein. Moi, je lui ai dit, on en a ri.
C'est impressionnant, en plus, physiquement. Ouais. Ça, il en impose.
Oui, et puis je pense qu'il y avait beaucoup de douceur, mais il ne voulait pas forcément trop nous le laisser paraître. Mais il nous regardait très attentivement. Et je me rappelle d'une scène que je faisais, on faisait mesure pour mesure. Et je devais rentrer dans la scène et dire mes premiers mots. Je faisais Isabella dans mesure pour mesure. Et mes premiers mots, c'était « au ciel ». Donc je rentrais, je faisais « au ciel ». Et il disait « non ». Je continue. Il me dit, tu continues toujours, mais je te dirai, c'est, voilà, ce au ciel. Et pendant des semaines, j'ai dit au ciel, et j'ai toujours entendu non, non. Et un jour, j'ai dit au ciel, et il a dit oui! Et là, je me suis arrêtée, et j'ai senti que ça me permettait de relier deux points à l'intérieur de moi, qu'il avait ouvert un espace, et que, voilà, une connexion s'était faite en moi, grâce à son regard.
Alors, avec vos camarades, fort de cet enseignement, votre premier spectacle sera Gêne 01, d'après Fausto Paravidino, présenté au Théâtre du Nord en 2010. Après, il y aura Tristesse Animal Noir, puis la grande révélation pour un plus vaste public au Festival d'Avignon avec les Particules élémentaires, d'après Michel Houellebecq, puis deux spectacles, deux et avec Tiphaine Raffier. La chanson est dans le nom. La chanson deviendra aussi un court-métrage que vous jouez aussi. Retour pour vous à Avignon avec 2666, puis avec la trilogie d'Anne de Lillo. Il y aura ensuite Le Passé, créé au TNS. Mais ça, on va y revenir dans un instant. Après avoir découvert votre choix musical, qui n'est pas sans lien, Victoria Canel, avec vos années d'école, on va écouter une chanson de Léopoldine Achach. Où vont les sons? Pourquoi ce choix?
Déjà parce que Léopoldine Achach, c'est mon amie et c'est une artiste que j'admire énormément. Et aussi parce que donc c'est un spectacle, c'est une chanson qui est issue d'un spectacle, L'Homme de Février de Gildas Milin, qu'on a vu ensemble, donc avec ma promotion à l'école. Et voilà, j'ai un souvenir très ému et vif de ces premiers moments de spectateurs partagés avec eux.
On écoute Léopoldine Achach. Thank you.
choses à venir pour me guérir. Où vont les riens, tout petit rien que j'aimais bien, nos à demain. Où va ce qu'on dit tout bas. Où va la voix, où vont les sons que nous aimions, où vont les sons dans une chanson,
dans une chanson.
Je pleure comme un loup qui a peur de son ombre, des lueurs, des pénombres où tu disparais à jamais. Je meurs et je joue avec l'art et la tombe avec la matière sombre où tu disparais à jamais. Où vont tes mains dans le matin? Sur quel soleil vont tes merveilles? Où vont les rires à retenir la déchirure et la blessure? De son ombre, des lueurs, des pénombres où tu disparais à jamais. Je meurs et je joue avec l'art et la tombe avec la matière sombre où tu disparais à jamais.
Léopoldine H.H., où vont les sons? C'est dans l'album La Lumière Particulière. Alors, dans ce rappel de votre parcours théâtral, Victoria Kennel, je me suis arrêté au spectacle d'après Léonide Andreïev, Le Passé, adapté et mis en scène par Julien Gostin, car il marque, vous l'avez expliqué par ailleurs, un moment important pour vous, vous qui parlez de colonne vertébrale. Alors, la pièce colonne vertébrale de ce spectacle, c'est Ekaterina Ivanovna, et c'est ce rôle-titre que vous interprétiez. Qu'est-ce qui s'est passé là pour vous? Qu'est-ce que ce travail vous a permis? Qu'est-ce qu'il a ouvert en vous?
Je crois déjà qu'il est arrivé, ce spectacle, à un moment où... ça faisait déjà plusieurs spectacles qu'on faisait ensemble avec Julien. Je crois que c'est dans le spectacle d'avant où j'ai commencé à avoir envie. Je suivais beaucoup Julien au départ et ça m'arrangeait très bien. J'aimais bien quand on travaillait le spectacle et qu'il lui bloquait sur la mise en scène, moi de pouvoir faire du Candy Crush dans mon canapé et que ça soit pas mon problème. J'aimais bien ça. Ouais. J'aimais bien ne pas avoir cette responsabilité là, quoi. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des spectacles, j'ai ressenti vraiment le besoin de qu'on dialogue ensemble, quoi. Que moi aussi, je mette ma singularité et puis mon travail encore plus, au service de ce travail. Et donc c'est sur le spectacle Donne de Lilo où j'ai commencé à essayer de dialoguer plus avec lui. Et puis je crois que ça a ouvert des espaces entre nous qui ont permis qu'il me propose ce rôle d'Ekaterina Ivanovna. Ça a été un peu vertigineux au départ parce que j'étais très émue et très heureuse et en même temps je savais vraiment pas comment jouer ça, quoi. Et en fait, ce qui est assez beau, c'est que c'est un travail de confiance mutuelle qui a été rendu possible aussi par des années de travail ensemble, qui a fait que moi, je l'ai suivi avec une immense confiance. Et je crois que lui aussi a suivi l'exploration que ce rôle me permettait de faire de moi.
Qu'est-ce que vous avez trouvé
C'est difficile, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en mots, mais je crois qu'il y a une résonance, parfois ça arrive dans une vie d'acteur et d'actrice, il y a une résonance entre ce que le personnage traverse et des zones de mon intimité. C'est compliqué de mettre des mots puisqu'il s'agit de mort psychique, alors moi je suis pas... j'ai une vie plutôt calme par rapport à ça. Je pense pas être morte psychiquement, mais il y a quand même des zones de douleur, de tristesse que j'ai pu explorer. Une violence. J'y ai mis beaucoup de moi, de quelque chose de ma terreur. Le mot est fort, mais voilà. J'avais des rendez-vous à chaque fois que je jouais ça avec mon enfance. C'est beaucoup de dire ça, mais je me suis sentie vraiment traversée par ce personnage et il m'a vraiment traversée moi dans mon intimité, quoi. Et c'était un merveilleux cadeau de pouvoir vivre ça.
Alors ce spectacle, vous l'avez beaucoup joué, tous les spectacles avec Julien Gosselin. Mais du coup, est-ce que quitter ce rôle, ça a été difficile ?
C'est toujours... on y reviendra peut-être en parlant de Constance Debray, mais je crois que moi, j'ai un rapport à la perte assez évident. Et je crois que c'est pour ça que je fais du théâtre. Voilà. Je crois que j'envisage ma vie comme des révolutions successives. Et donc non, ce n'est jamais difficile de perdre, et je n'ai jamais l'impression que je dois sortir d'un rôle. Mais c'est vrai que je suis triste de me dire que je ne le rejouerai probablement jamais. Mais est-ce que c'est pas ça qui fait la beauté de ce qui s'est passé finalement?
Alors, dans la beauté de ce qui s'est passé avec ce spectacle, Le Passé, c'est que ce que vous donniez sur scène a en tout cas donné envie à d'autres metteurs en scène de travailler avec vous. Pascal Rambert, Hugues Jourdain, Lorraine de Saint-Gazan. On va s'attarder sur les deux premiers. C'est avec Hugues Jourdain que vous nous proposez cette adaptation de Constance Debray et on va y venir. Mais j'ai la chance de vous voir il y a quelques semaines à peine au Bouffe du Nord dans Finlandia. Texte et mise en scène de Pascal Rambert. Là, c'était une belle surprise, c'est quoi, un coup de fil, un petit mot de Pascal Rambert.
C'était merveilleux parce que moi j'avais un rêve de metteur en scène, c'était Pascal Rambert, parce que j'avais vu et j'avais été éblouie par Clôture de l'amour justement au Théâtre du Nord quinzaine d'années, je m'en rappelle plus. Et puis j'avais vu Sœur, Bouffe du Nord. Je suis extrêmement admirative d'Audrey Bonnet et de Marina Hans, qui est mon actrice préférée. et ce que je les voyais faire au plateau, là, notamment dans Sœur, je me disais mais je veux absolument faire ça, cette langue, cet engagement, voilà. Et quand on jouait Le Passé à l'Odéon, c'était vraiment en milieu de série, j'étais vraiment très fatiguée, j'avais peur un peu tous les soirs parce que c'était quand même une montagne, quoi. Et puis juste avant de rentrer en scène, toute tremblante, j'ai entendu Julien demander à je sais plus à qui, si Rambert était bien dans la salle. Donc je savais que Rambert était là, juste avant. Et donc j'étais terrifiée, j'ai pensé Pascal Rambert sur toutes mes répliques, vraiment. Toute la deuxième acte, chaque fois que je disais le texte de Léonide Andreev, je pensais Pascal Rambert, voilà. Ouais. Et le soir, je me suis reprise quand même au bout d'un moment, et le soir j'ai reçu un texto de Pascal Rambert, me disant qu'il était heureux de m'avoir vu jouer et qu'il avait envie qu'on travaille ensemble un jour. Et c'est beau parce que, comme si on s'était... Il m'avait entendu dire son nom.
Le nom de...
Et un an plus tard, voilà, il m'a proposé Finlandia.
Alors, sur cette langue de Pascal Rambert, on va écouter un autre extrait d'Affaires culturelles. On revient en octobre 2020, je le recevais dans cette émission. Pascal Rambert, je précise que dans l'extrait qu'on va entendre, l'Antoine dont il parle, qu'il évoque, c'est Antoine Vitez.
Pourquoi il aurait fallu que je mette de la ponctuation? Et c'est pas du tout pour faire genre, je veux dire, c'est vraiment pas nouveau. Beaucoup de gens ont fait ça.
Qu'est-ce que ça apporte?
Mais moi, je veux dire, et les acteurs le sentent tout de suite, quoi. C'est-à-dire, non, mais ils sont dans un rapport quasiment de co-création lorsqu'ils le lisent ou quand ils l'interprètent. Moi, je fais un métier, c'est un métier d'interprétation. Je suis pas psychanalyste, mais je fais un métier d'interprétation. Donc, j'interprète du réel, je lui donne une forme, comme disait Antoine, et après, je le donne, je le livre dans le corps, dans la bouche des acteurs, et après, eux, ils l'interprètent. Ce qui fait que je parle d'ailleurs de moins en moins aux acteurs. Et tous, ils me disent, mais t'as pas quelque chose à me dire? J'ai rien à dire, moi. J'ai pas d'idée sur la vie. Je sais pas ce que ça veut. Enfin, je crois pas à la direction d'acteur et tout ça. Par contre, ce que j'écris pour eux, c'est plus que de la direction d'acteur. Ce que j'écris pour eux, c'est plus que tout, jamais aucun metteur en scène pourra leur dire. Et tout est à l'intérieur de ce que j'écris. J'ai pas grand chose à rajouter. Et d'ailleurs, quand je leur donne, les acteurs, pour eux, c'est très clair, très simple, et la ponctuation, ils peuvent décider de s'arrêter là ou après. D'ailleurs, si on regarde s'il y a un linguiste ou une linguiste, regardez comment c'est écrit, on peut tout à fait voir qu'en effet, le sens peut se transformer en fonction de où on s'arrête, où on reprend la phrase, où on reprend l'intonation. C'est une proposition de liberté.
Mais ce qui veut
J'adore
dire...
la liberté. Et pour moi, c'est quelque chose que je tiens très fort à ça, à ce que les gens soient... voilà. Interprètent par eux-mêmes, sans être un metteur en scène qui est sur leur dos en leur disant « tu dois faire ceci ».
Alors, maintenant que vous avez rejoint avec Ariel Kenel le cercle des interprètes de Pascal Rambert, est-ce que vous validez ses propos?
Oui, bah déjà, ça me touche de l'entendre, parce que c'est vraiment une très belle rencontre, parce que parfois, quand le réel, enfin voilà, quand on a un rêve et qu'il devient réel, on peut être déçu, et c'est c'est tout l'inverse qui s'est passé. Je suis vraiment extrêmement émue de cette rencontre. Oui,
Il dirige ou il dirige pas? Est-ce que tout est dans le texte?
Bon, déjà, ce qui est particulier pour moi et Joseph Drouet, donc, qui a joué Finlandia, c'est que ça n'a pas été écrit pour nous. Oui. Ça a été écrit pour des acteurs espagnols. Donc, nous, on faisait une reprise française. Bon, c'est la différence dans ce qui est dit là. En fait, c'est vrai ce qu'il dit sur la liberté et c'est vrai ce qu'il dit sur le fait qu'il n'est pas sur notre dos. Il nous a dit tout de suite, on va pas travailler des scènes, on va faire des filages et puis je parlerai de moins en moins. C'est faux, il parle beaucoup et c'est tant mieux parce que moi j'adore l'écouter parler. Voilà. En fait, il nous laisse beaucoup de liberté et en même temps, de manière très intelligente, il nous amène quand même là où il a envie de nous amener. Mais c'est ça qui me passionnait dans le fait de travailler avec lui, c'est que j'avais envie de me faire structurer, déplacer par sa manière de penser le théâtre au plateau, quoi. Enfin voilà, de penser le plateau. Et donc, ouais, voilà.
Mais dans Finlandia, alors vous l'avez dit, vous partagez la scène avec Joseph Drouet, avec qui vous avez joué plusieurs spectacles de Julien Gosselin. Alors, est-ce que vous avez appris une nouvelle langue ensemble,
oui,
de ce fait?
Totalement. Et je dois dire que c'est aussi très émouvant ce qui s'est passé pour moi avec Joseph, parce que Joseph est quelqu'un que je connais depuis longtemps, mais je le connaissais d'une certaine façon. Et voilà, quand on s'est retrouvés d'un coup tous les trois avec Pascal, il y avait une nouvelle reconfiguration, ouais, en fait, du rapport. Et j'ai l'impression d'avoir redécouvert Joseph, de la manière de travailler de Joseph, et même la manière qu'on a d'être ensemble au plateau. Et ça, c'était très fort et très émouvant.
Alors, je disais, c'est aussi en vous voyant que sur scène dans le passé, Hugues Jourdain a lui aussi envie de travailler avec vous. Alors là, ça s'est passé comment, cette rencontre-là?
Alors, c'était même sur le spectacle d'avant.
Ah oui?
Oui, alors il m'a dit l'autre jour, c'est assez beau, il m'a dit, quand je t'ai vu apparaître sur l'écran, je faisais une entrée avec une Kalachnikov en bois et je chantais Mao Mao. Et il m'a dit, quand je t'ai vu rentrer, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose, qu'il allait se passer quelque chose entre nous, qu'on allait devenir amis, quoi. Voilà. Et il m'a écrit le soir, il m'a invité à aller voir son spectacle sur Guillaume Dustan, dans ma chambre. Et donc, je suis allée voir...
Très bon spectacle.
Oui, très très beau spectacle.
Et très fort, parce que vraiment très difficile.
Oui, et c'est vrai. Et d'ailleurs, il m'avait dit, je t'assure, c'est pas un guet-apens, c'est un bon spectacle, viens s'il te plaît. Et donc, j'étais allée, et effectivement, bah, j'ai trouvé le spectacle magnifique. Et voilà, j'ai eu un coup de foudre pour cette personne. On est devenus très amis. Et on est très différents, c'est très étonnant, mais on est en osmose sensible. Je sais pas comment le dire autrement. Il y a vraiment, on est toujours émus des mêmes choses. On pleure beaucoup ensemble, on rit énormément ensemble. C'est une très belle amitié, quoi, qui est née par le théâtre, ce que je trouve d'autant plus touchant. Et un jour, je lui ai parlé de Constance Debray. Et il m'a dit, bah, moi, j'ai très envie de travailler avec toi, donc faisons quelque chose ensemble sur Constance Debray. Et il se trouve que Constance Debray a vu son spectacle sur Guillaume Dustan et donc lui a donné ses droits. Donc il y a comme eu un alignement de planètes. Je pense qu'il serait pas allé vers Constance Debray sans moi, et je n'aurais peut-être pas pu faire Constance Debray sans lui.
Alors qu'est-ce qui vous a amené, vous, vers l'écriture de Constance Debray,
Kenel? Ce qui m'y a amené, je me rappelle pas. J'ai lu Love Me Tender dans un train, et j'ai le souvenir très net du choc que j'ai eu pour deux raisons. La première, c'est que moi, j'ai un rapport à la littérature. On s'est beaucoup moqué de moi, surtout dans l'enfance. Enfin, moqué, le mot est fort. Mais j'ai toujours cherché des choses dans les livres. Et on me demandait un peu, mais qu'est-ce que tu cherches dans les livres? Mais moi, je comprenais pas qu'on me pose cette question. Pour moi, c'est évident que la littérature, nous aide à vivre mieux. La philosophie aussi. Bon, quand j'étais jeune adolescente, je lisais de la vulgarisation de philo et du développement personnel. Parce que bon, j'avais pas évidemment accès à l'éthique, mais je lisais Être heureux avec Spinoza, enfin, ce genre de choses. Et j'y cherchais des bon. Et quand j'ai ouvert Love Me Tender, je me suis rendu compte qu'elle avait le même rapport à la littérature. Parce qu'elle écrit ses livres comme des modes d'emploi. Elle dit, voilà, moi, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais dans mon existence. Voilà ce que je déplace dans ma vie. Et vous, vous en êtes où? Voilà ce que je propose en termes de discipline. Voilà. Et alors là, je me suis dit, ah, bah là, bon, c'est pas la première lecture qui me fait ça, mais là, c'était très fort. Je me suis dit, là, je trouve quelque chose, quoi. Et la deuxième raison, c'est que le début de Love Me Tender parle d'amour. Bon, là, c'est l'amour maternel dont elle parle dans Love Me Tender, mais de toutes les formes d'amour aussi. Et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe avec l'amour, en fait? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas s'arrêter deux secondes avec l'amour? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas re-questionner les liens, l'amour, tel qu'on nous le décrit, nous le vend, nous le raconte? On pourrait pas s'arrêter avec l'amour. Moi, autour de moi, je vois que des menteurs et je vois que des fous. Et comme moi, j'ai toujours eu un petit sentiment de confusion. j'ai toujours eu la sensation que je comprenais pas très bien, en fait. Bah, le récit qu'on me faisait sur l'existence en général, ouais. C'est un peu beaucoup de dire ça, mais c'est pas tout à fait faux. Et l'amour en particulier. Et donc, j'étais très contente d'entendre quelqu'un re-questionner, repenser, se permettre de dire, bah non, peut-être pas. Moi, je pense peut-être pas comme ça. Voilà.
Ça fait du bien.
Énormément de bien. J'ai ressenti un immense soulagement.
Je comprends très bien. il se trouve que j'avais reçu Constance Debray dans cette émission au moment de la sortie de ce livre, non, NOM. Dans ce livre, elle écrit, page 15, « Je me suis débarrassé de presque tout, de la famille, du mariage, du travail, des appartements, des choses, des êtres. C'est ce que j'ai fait ces dernières années, me débarrasser. » Alors, je suis pas sûr que ces phrases soient dans l'adaptation que vous jouez.
Si.
Peut-être pas entièrement.
Non, pas entièrement.
Voilà. Enfin, mais bon, l'idée est là quand même.
Oui.
Est-ce que ces phrases, elles sont aussi des indications pour l'interprète que vous êtes, Victoria Canel? Est-ce qu'il faut se débarrasser de quelque chose pour jouer Constance Debray de façon juste?
Bah, nous, c'est le pari qu'on fait avec Hugues. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut mettre, comme elle met son corps, elle dit « je » dans son livre, nous, au théâtre, on doit mettre mon corps sur le plateau, sans artifice, quoi. Juste mon corps. À l'endroit de sa plus grande solitude et de sa plus grande vulnérabilité. Mmh. Et c'est pas tant dans comment je l'interprète, mais c'est plus dans le geste de mise en scène et d'adaptation, parce qu'on a aussi essayé de se débarrasser. Bien sûr, moi, j'aime énormément de choses dans Non, et beaucoup, toute la pensée, en fait. Mais on a essayé d'aller à l'essentiel de, voilà, cette traversée. Et de, voilà, de pas, de rendre ça pauvre, enfin, le plus pauvre possible au plateau. Parce qu'on, on pense que c'est ça qui est intéressant. C'est l'endroit d'essentiel.
Alors, justement, à propos d'essentiel, l'écriture de Constance Debray, c'est un manuel et une recherche de vérité. Alors, on sait bien qu'en art, c'est quand même une question complexe, singulièrement au théâtre. Cette question de la réalité et de la vérité, on va écouter Julien Gosselin. C'était dans cette émission en décembre 21.
Moi, je ne suis pas auteur. Je pense que le travail des écrivains est très différent. Mais disons... Je crois très fort à cette idée de vérité, en art, disons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la vérité en art? Je sais pas, mais quand je travaillais avec les acteurs d'Ivo Vanov à Amsterdam, je travaillais avec un dramaturge qui travaille souvent avec Ivo Vanov, qui s'appelle Peter Van Kraai, et qui est un homme que j'aime énormément. Il s'asseyait tout le temps à côté de moi pendant les répétitions. Et quand les acteurs, à un moment, produisaient quelque chose qui était... au fond très beau mais pas très intéressant, il disait toujours c'est pas vrai. Et puis parfois on avait la sensation que l'adjonction de ce que les acteurs faisaient, de ce que moi je proposais dans la mise en jeu, la musique, il disait là c'est, il y a quelque chose de l'ordre de la vérité, c'est-à-dire ce que moi je veux raconter est raconté. Alors bon, eh ben oui, il faut ça. Il faut ça. Le problème, c'est que c'est comme un chemin qui demande une certaine prétention et qui demande un certain courage. Mais il faut essayer de toucher pour soi-même une forme de vérité. C'est assez désagréable parfois. Et alors oui, à la fin, bah, il faut bien qu'on soit un petit peu aimé.
Oh. Commentaire, Victoria Canel.
Ça me touche beaucoup d'entendre ces mots. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on... Voilà, c'est difficile à mettre en mots pour moi, mais je pense qu'on a toujours été reliés avec Julien à cette question de la vérité. Quand on s'est rencontrés, lui venait de Calais, il aimait pas faire la fête et il lisait Houellebecq, et moi je faisais les fêtes de Bayonne. Et pour autant, on s'est toujours senti extrêmement reliés, et je pense que c'est une tension vers cette envie de vérité. Et ce qui me touche aussi beaucoup, c'est que, et on l'a retrouvé aussi dans Extinction, enfin, de Thomas Bernhard, c'est cette question, parce que Debré, c'est ça aussi. C'est un moment, c'est la notion de courage. Et en fait, c'est ce qu'il y a dans Non. Et c'est aussi pour ça que c'est Non qu'on voulait monter avec Hugues. C'est qu'il y a cette question de, pour accéder à une forme de vérité, ça demande un courage et presque de l'héroïsme, de perdre, de ne pas se raconter d'histoire. Et de faire face à un réel. Et je pense que voilà, c'est ça qui me touche parce que je sais qu'on partage ça très fort.
Oui, parce qu'il dit courage, prétention, et c'est pas toujours très agréable.
Non, c'est perdre, c'est très douloureux. Mais je pense que si on ne sait pas perdre, on ne vit pas. Et je pense que Julien partage cette idée.
Et dans le travail avec Hugues Jourdain, pour Non, ça a été ça, les lignes de force du travail, les indications, vos lignes de conduite essentielles?
Alors, Hugues, c'est intéressant parce qu'il fait un autre théâtre que celui de Julien. Moi, je sors de vraiment, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec Julien. Et Hugues, il me disait beaucoup, moi, je t'adore quand je te vois jouer chez Julien, mais j'ai envie que tu joues autrement. J'ai envie que tu ne produises pas. Et donc, il me disait tout le temps d'arrêter de produire, il me le dit encore.
Ça veut dire quoi, arrêter de produire?
Pas sortir d'outils. pas sortir de grosses voix, pas trop, pas quand c'est pas nécessaire. Moi je disais là, tu crois pas qu'on pourrait mettre un peu de musique? Il me disait non, on va faire ça dans le silence. Il me disait non, mais là je sens que je suis toute seule, je suis avec ma chaise. T'es sûre qu'il y a assez de tension? Il me disait non, mais t'es suffisante, hein, y a pas. C'est très intéressant en fait. C'est un exercice de dépouillement. Et oui, en ce sens, je crois qu'on poursuit ce geste, en tout cas nous, ce qu'on a reçu de la lecture de Constance Debré.
Et enfin, on va écouter justement l'autrice Constance Debré. C'était encore une fois, c'est un festival ce soir, c'était dans l'affaire culturelle, donc en février 22.
Je pense que quand on parle d'un corps, enfin comme la matière n'est qu'une, tout ce qu'on sait de la matière ou du monde, y compris de sa propre matière, c'est-à-dire de son corps, ne sont que des représentations. Mon corps n'existe que si je l'écris. Et qu'en réalité, pour moi, la question d'écrire je est synonyme de mettre son corps dans la page. Et que par ailleurs, quand on écrit à la première personne, à mon avis, quand on prend ce parti, il faut y aller complètement. Et donc, il faut, on peut pas avoir peur du ridicule ou de l'arrogance. Et voilà, il faut poser la question du corps. Je déteste l'idée d'une littérature désincarnée. Si j'aime tant Bacon, c'est aussi pour ça. C'est pour cette question de la viande. Et c'est pas parce que la littérature, ce ne sont que des signes. Que ça parle d'autre chose que de nous. Et je crois que la métaphysique passe par la physique, voilà, en fait.
Victoria Kennel acquiesce au propos de Constance Debré.
Oui, totalement, totalement. Bah, c'est aussi dans ce rapport à la littérature. Moi, c'est aussi quelque chose que j'étais tellement heureuse de lire dans ces livres. C'est que moi, je lis avec mon corps. Je lis pas que avec mon cerveau. Et que moi, quand je lis, j'ai des mouvements émotionnels. Je lis, je crois comme on écrit depuis l'endroit chez moi qui est seul, qui est triste, qui est solitaire et qui est minable. Et en fait, voilà, c'est comment dire, c'est ça qu'elle dit. Et moi, c'est ça que j'ai essayé, qu'on a essayé avec Hugues de faire, c'est-à-dire de, c'est pas tant d'adapter, c'est pas tant de monter Constance Debré, de mettre Non sur scène, c'est de mettre cette expérience de lecture, ces sensations de lecture, ce qui nous traverse quand on lit, ce qu'on reçoit, ce qui nous modifie sur le plateau.
Oui, parce que dans Non, elle écrit, notamment, Constance Debré, pour mon corps, ça m'a pris 40 ans de comprendre ce que je devais en faire. Mm-hmm. Son corps, elle l'a sculpté, elle l'a modifié, elle l'a tatoué, le fait nager, pratique quotidienne, qui est aussi reprise sur le plateau. Mais au tout début du spectacle, je ne vais pas en dire beaucoup, mais la salle est éclairée, le public et vous avec. Vous allez, vous, très très près des premiers rangs. Vous parlez au public les yeux dans les yeux. Mmh. Alors Constance Debray était avocate. C'est par ce biais aussi qu'on entre dans le spectacle. Alors, comme l'avocate pourrait parler à un jury, mais ça fait quoi pour vous, Victoria Kennel, mmh. sur le plateau en début de spectacle, d'être aussi près de vos spectateurs et de les regarder les uns et les autres comme ça?
Bah, c'est troublant. Évidemment, mais en fait, je pense que c'est aussi une idée d'un certain risque. Évidemment, un risque modéré, hein. C'est pas très dangereux, mais j'ai quand même une sensation de risque parce que du coup, je vois les gens et donc je commence à parler et j'ai des pops dans mon cerveau. Je me dis, ah, il y a elle, il y a lui, voilà. Et c'est comment est-ce que justement ça c'est aussi oui, parce que c'est le présent de ce que je suis en train de vivre. Mmh. Et tous les soirs, les gens sont différents. Et en fait, c'est une connexion à cette salle et à ce présent-là tous les soirs, quoi. Mmh. Je dois dire aussi qu'on a vu avec Hugues Christine Angot lire Voyage dans l'Est à la Maison de la Poésie. Et elle commençait comme ça en entrant extrêmement près. C'était une lecture, voilà, et elle semblait presque ne pas jouer. Et en fait, elle jouait énormément. Mmh. Et ça nous a beaucoup touchés. Et on a pensé le début du spectacle aussi en pensant à ça.
Ouais, je l'ai vu faire des lectures, c'est... Ouais, très impressionnant.
Intense. Oui.
Toujours.
Oui, et après, c'est quelque chose qui dépasse le théâtre, en fait. C'est pas une question de théâtre. Bon, alors là, en plus, c'est elle qui lit son livre. Mmh. Mais nous, on recherchait aussi à dépasser ces questions de théâtre, ce qui est difficile dans un seul en scène, qui plus est.
Ouais, mais Christine Angot, c'est une vraie comédienne, hein, par ailleurs. Elle avait d'ailleurs fait ce spectacle extraordinaire avec Mathilde Monnier, où, à la fin, c'est d'ailleurs Mathilde Monnier qui était plus comédienne et Christine Angot plus danseuse.
D'accord.
C'est encore une autre histoire. Mais elle a quand même cette présence scénique.
Ah oui, j'étais saisie, sa lecture à la Maison de la Poésie. C'était magnifique.
Mais je reste sur la question du corps, puisqu'on est, on y est ô combien. Mais pour revenir à Finlandia, je remarquais que quand votre personnage était dans l'écoute de son mari, parce que c'est souvent l'un ou l'autre qui parle, vous, votre personnage, vous étiez presque toujours en mouvement, en balancier comme ça, d'un pied sur l'autre, aussi comme un boxeur. Mmh. Ce mouvement, il venait de vous ou de votre metteur en scène, Pascal Rambert?
À la base, il vient de Pascal Rambert. Bah, Pascal Rambert, il dit beaucoup, le plus important, c'est pas celui qui parle, c'est celui qui écoute. Et là, je me suis dit, ah ouais, parce que moi, j'ai vu les spectacles de Pascal Rambert et j'étais cette science-là de comment il faisait. Je voulais tout savoir, je voulais tout apprendre. Et donc là, je me suis dit, ah, ça, c'est une clé. J'avais pas. Mais dans Clôture de l'amour, tout ce que Audrey Bonnet reçoit au départ, elle l'enregistre, elle le prend, elle vibre, en fait. Et donc, oui, ça vient de lui. Et après, bah, moi, à l'intérieur, je me suis essayée à cette chose-là, mais c'est vrai que c'est très intense et c'est dans l'écoute de se laisser traverser par les mots de l'autre, on en devient presque, on joue de la même manière, vraiment. Mmh. Mais en fait, je pense que ça, c'est une chose basique quand on joue. Hein. On ne s'éteint évidemment pas quand on ne parle pas, mais disons que là, c'était comme vraiment revenir à cette base de manière très très claire, quoi.
D'ailleurs, Clôture de l'amour sera bientôt repris une fois encore au Théâtre 14 et ça me donnera enfin l'occasion d'accueillir Audrey Bonnet dans cette émission. Ça dans quelques semaines. Mais puisqu'on parle toujours physique, Victoria Kennel, là, je vais être un peu plus pratique encore. En vous voyant dans Finlandia, j'ai eu peur pour votre voix. J'étais rassuré d'entendre qu'elle était toujours vaillante pour non, mais vous la sollicitez encore beaucoup. C'est quand même un outil important pour vous. Comment est-ce que vous y faites attention?
J'y fais pas vraiment attention. Ça, c'est des... Non. Bah, moi, j'ai vraiment un rapport à ma voix très particulier. J'ai vraiment eu extrêmement honte de ma voix enfant. Je pense que c'est pas ce que je me disais quand j'étais petite, mais maintenant, je me dis qu'en fait, c'est parce que ma voix, c'est mon intimité. Et j'ai toujours eu un... Voilà, je pense que j'avais beaucoup honte, en fait. Bon, je sais pas exactement d'où ça vient. Voilà. Et en fait, petit à petit, donc d'abord à l'école, puis en jouant, et avec ce rôle d'Ekaterina Ivanovna, il y a des choses qui sont ouvertes en moi, notamment aussi en voyant Valérie Dréville jouer, je ne sais plus dans quel spectacle, Vassiliev, mais je ne sais plus.
Mais des matériaux?
Non.
Ah non,
c'était un plus tard, avec Sava Lolov, mais j'ai oublié le nom du spectacle. Sa manière de crier a ouvert des espaces en moi. Et ça, c'est ça, ça je me dis ça, dis donc, en tant qu'actrice, faire ça, ou non mais c'est très beau, c'est vraiment puissance de relais comme ça. Et bon, et ensuite il y a eu Ekaterina Ivanovna, et donc j'ai exploré des zones. Je me suis rendu compte que des endroits de honte pouvaient en fait être remplis et que ma voix pouvait sortir comme ça. Alors on se moquait de moi, il y avait des gens qui se moquaient de moi sur ce projet, qui disaient que je faisais ma voix de métalleuse, tout ça. Non mais j'ai exploré vraiment. Et je peux me casser la voix en répétition quand je cherche, mais par contre, une fois que j'ai trouvé, je sais que j'ai une voix assez tout terrain, quoi. Bon, je dis ça, je vais être à faune la prochaine fois.
Non,
je crois que c'est un. En fait, elle est bien plus robuste que ce que j'imaginais.
Ouais, parce qu'il y a quand même une puissance, un niveau de décibel.
Oui, ça, j'ai toujours parlé très, très fort.
Sur une silhouette quand même gracile. Donc, il y a quand même... non, mais c'est très impressionnant aussi. Mais justement, comme vous évoquez ces différents rôles et puis ces différents metteurs en scène maintenant avec qui vous avez travaillé, on a l'impression qu'il y a tout d'un coup une accélération, comme si vous aviez écrasé la pédale d'accélérateur, là, tout d'un coup.
Bah, c'est-à-dire que... Moi, j'ai beaucoup de mal à dire non à ce que la vie me propose. Et en fait, je suis hyper active. Puis je veux tout. Moi, je veux tout vivre, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, bah, si on me fait des propositions, je dis oui, un maximum. Là, je suis en train de me poser la question de ma santé, notamment mentale, parce qu'à un moment, non, mais j'ai le cerveau un petit peu saturé. Parfois, je le sens, il faut que je fasse attention. Surtout que je suis un peu sensible, donc je sens que je voudrais pas craquer à un mauvais moment, quoi. Mais oui, je crois que... Ouais, là, j'appuie sur l'accélérateur, parce que... Mais c'est aussi des propositions qu'on me fait, et je saisis tout. Et il sera temps, peut-être plus tard, de me poser la question de « Ah, peut-être qu'il faut que je n'attrape pas à chaque fois au vol tout ce qui... » Enfin, voilà, si ça continue...
Enfin, vous attrapez des choses que vous avez très envie d'attraper, là. C'était Pascal Rambert, c'était Sarah avec Hugh Jourdain, un travail en ce moment avec Lorraine de Sagazan.
Oui, c'est... mais de manière générale, j'ai envie d'attraper les choses parce que je suis curieuse. Voilà. Donc voilà, maintenant, il va peut-être falloir que je réfléchisse... Voilà, en termes aussi de choix. Mais bon, ça, on verra plus tard.
Mais c'était en fait l'origine de ma question. C'est comment un personnage, des personnages, est-ce que ça nourrit le suivant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'emboîte? Est-ce qu'il y a un côté poupée gigogne aussi quand on passe d'un univers à un autre? Qu'est-ce qui reste de Ekaterina Ivanovna dans Non, par exemple?
Ah ouais. Je parlerai pas de personnages, mais de traversées que j'ai pu faire. Forcément, elles sont en moi. Enfin, Pascal Rambert, il disait l'autre jour, j'ai adoré. Il disait mon texte, c'est comme vous rentrez dans une pièce noire avec votre lampe torche et vous éclairez un maximum la pièce comme ça partout. Et ensuite, quand vous sortez, il faut que vous décriviez la pièce. Un maximum dans les détails, quoi. Et moi, j'ai l'impression que chaque traversée que je fais avec un metteur en scène, bah, j'éclaire un endroit de moi avec une lampe torche, quoi. Voilà. Et donc, il y a une zone qui est éclairée, du coup, pour le prochain. Et je pense qu'on n'a jamais tout éclairé, mais que de l'un à l'autre, la lumière se fait de plus en plus en soi. Et c'est pas une question de, je pense, de rôle, mais plus de ce que. Et c'est pour ça que je veux travailler avec beaucoup de gens. Et en même temps, revenir toujours à ceux, avec qui j'aime travailler, c'est que, c'est ces apprentissages-là et ces déplacements-là, qui font grandir et qui font qu'on travaille bien et qu'on devient meilleur, je pense.
Qui font que Victoria Kennel est grande. On savait depuis longtemps, mais vraiment, cette saison le confirme ô combien. Ouais, la lumière, pour l'instant, elle est au Théâtre du Rond-Point. C'est jusqu'au 6 avril que vous jouez Non, N-O-M, je le rappelle, adaptation du roman de Constance Debray, mise en scène par Hugues Jourdain, avant de prochaines aventures. Merci Victoria Kennel
d'avoir
été notre invitée.
Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
L'avenir d'Adrian Lenker est radieux, c'est du moins ce que semble suggérer son nouvel album intitulé Bright Future. On ne lui en voudra pas pour ce titre un brin prétentieux. Le premier album de son groupe, Big Thief, s'intitulait Masterpiece, autrement dit chef-d'œuvre, ce qui est tout à fait conforme à son contenu. Formidable autrice, compositrice et interprète, Adrian Lenker fait les beaux jours de son groupe qui est devenu en moins de 10 ans et 5 albums un incontournable du rock indépendant, tout en s'accordant quelques excursions en solo. C'était le cas avec Songs and Instrumentals, double album consacré en 2020 et enregistré dans une petite cabane au cœur des montagnes du Massachusetts. Une entreprise qui évoquait la tradition des transcendentalistes américains Thoreau et Emerson, tout comme ses chansons empreintes de contemplation et de coïncidence avec la nature. Mais Songs était surtout un album de rupture amoureuse, un album pour solitaire qui se prêtait à la simplicité de la guitare-voix. Pour Bright Future, Adrian Lenker a invité trois musiciens qu'elle adore, Matt Davidson, Josephine Runstein et Nick Hakim, à la rejoindre dans un studio d'enregistrement analogique situé en plein cœur de la forêt. Si la guitare, qu'elle exerce avec un immense talent, est évidemment présente, le violon et le piano s'invitent avec curiosité sous cet album au son brut et authentique, ajoutant une pièce de plus à une discographie épatante. Adrian Lenker n'a pas de quoi s'inquiéter, son avenir s'annonce bien radieux. C'était Fool d'Adrian Lenker qui sera en concert au Trianon à Paris le 2 mai.
France Culture, le grand tour, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je viens d'arriver à Metz dans la région Grand Est au Centre Pompidou qui inaugure son année 2024 avec une exposition sur Jacques Lacan. Alors oui, hein, bien le fameux psychanalyste et philosophe qui a quand même marqué la pensée de son temps. Alors quel est le lien entre cette pensée pas toujours limpide à la première lecture et une exposition d'art ? Bien je crois que c'est ce que nous allons découvrir.
Je suis Bernard Marcadet et je suis co-commissaire avec Marie-Laure Bernadac de l'exposition Lacan, l'exposition quand l'art rencontre la psychanalyse.
Alors Lacan, il est mort il y a environ 40 ans.
Oui, il est mort en 80.
C'est pourtant la première exposition d'envergure, en tout cas, sur Lacan. Comment expliquez-vous qu'il ait fallu 40 ans pour construire une exposition ?
Et c'est compliqué parce que sa pensée est réputée compliquée. En fait, c'est étrange qu'il n'y ait pas eu d'exposition à Lacan parce qu'effectivement, Lacan a un rapport à l'art très très privilégié. C'est ce que nous avons voulu montrer dans cette exposition. C'est pas une exposition sur le psychanalyste, c'est sur la relation que Lacan avait avec l'art. C'est ça, le cœur de l'exposition, c'est ça. Donc il y a trois niveaux dans cette exposition. C'est les œuvres que Lacan a regardées et qui sont décisives pour sa pensée. Puisque c'est au cœur de sa pensée qu'il a toujours donné des exemples d'art. Je pense à Holbein, je pense à Velázquez, je pense à Zurbarán, mais aussi bien à Marcel Duchamp, Salvador Dalí, René Magritte.
Oui, dans ses séminaires, on retrouve ces traces-là.
C'est au cœur de sa pensée. Et il a toujours dit que l'art, c'était ce qui effrayait la voie à la psychanalyse. Donc il ne s'agissait pas de faire de psychanalyse des œuvres. Donc il n'y a aucune psychanalyse des œuvres ou psychanalyse de l'art chez Lacan. C'est au contraire l'art qui informe la psychanalyse. Il a toujours défendu cette idée. C'était l'art qui ouvrait la voie, qui frayait la voie à la psychanalyse. Donc c'est ça que nous avons voulu montrer de manière centrale.
Alors là, c'est la voix de Lacan qui est derrière nous et qui nous accompagne en ce début d'exposition. Est-ce que vous pourriez nous montrer deux ou trois œuvres qui vous semblent les plus emblématiques ?
Nous y allons. Alors, je pense que une œuvre très importante, ça va être, on va aller un peu plus loin. Mais donc, il y a le stade du miroir dans ça, c'est important, puisqu'il y a le Narcisse du Caravage. Mais bon, Narcisse du Caravage, alors ça, ce qui est intéressant dans le Narcisse du Caravage, c'est la position. Alors, Lacan n'a jamais parlé du Caravage, mais par contre, on l'a surpris à Rome, en train d'être dans une position absolument extraordinaire. Les gardiens du musée Barberini l'ont surpris en train de se mettre quasiment presque par terre, en train d'essayer de comprendre comment Narcisse arrivait à se mirer dans le miroir. Et donc, les gardiens étaient effrayés. Ils ont dit, mais qui c'est cette personne? Ah, mais cette personne, il a été invité par Balthus, il est à la Villa Médicis. C'est un très grand psychanalyste français, il s'appelle Jacques Lacan. Voilà. Alors, je voudrais vraiment vous montrer quelque chose d'important maintenant. C'est ce grand rideau de Latifa et Chakch. Voilà, qui est pour moi sans doute...
Qui prend tout le centre de l'espace de cette pièce, un gigantesque.
Au cœur de cette section que nous avons appelée objet petit a, mais qui est une idée de Lacan. Lacan a inventé cette idée d'objet petit a. L'objet petit a, c'est en fait tout ce qui tombe du corps. C'est donc ça a une relation avec la chute, c'est bien sûr le sein, c'est aussi le phallus, c'est aussi la merde, mais c'est aussi pour lui le regard. Et c'est aussi pour lui la voix. Donc il a développé la question de l'objet qui avait été inauguré par Freud. Il l'a vraiment généralisé. Mais cet objet, donc, d'un décor de théâtre qui montre un ciel très magritéen. D'ailleurs, Magritte est très important dans l'exposition. C'est pour ça d'ailleurs que cette œuvre de Latifa est formidable. Parce que c'est un ciel de théâtre, mais qui renvoie à l'histoire de la peinture, à l'histoire du ciel dans la peinture, l'histoire des nuages, etc. Mais c'est un ciel qui tombe. Or, Lacan, d'une certaine manière, a fait de la chute le cœur de sa pensée. C'est-à-dire, non seulement tous les objets qui tombent de notre corps, que ce soit les larmes, que ce soit ça, ce sont des objets finalement décisifs. Ce sont des choses très très importantes. Ce sont des petits détails de notre vie, mais qui sont décisifs. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit, on se rapproche, il a dit cette phrase qui, pour nous, est très très importante, la subversion, si elle a existé quelque part et à un moment, n'est pas d'avoir changé le point de virée de ce qui tourne, c'est d'avoir substitué au ça tourne, hein, ça tombe. Donc de faire de la chute, de quelque chose qui est réputé négatif, quelque chose de positif, je crois que c'est une des entreprises très importantes de la pensée de Lacan.
Et c'est un bon exemple quand on imagine un expo sur Lacan, on se demandait quel type d'objet, quel type d'artefact il pouvait y avoir. Et là, c'est un bel exemple d'un exemple très concret, esthétiquement très présent au milieu de cette exposition.
Alors là, c'est une œuvre contemporaine et on va passer une œuvre très très ancienne dont il a parlé. On a la chance de la voir. C'est une œuvre de Zurbarán. Donc voilà. C'est donc une œuvre de Zurbarán qui est donc, il ne faut pas que je me trompe, c'est à Chartres. Il est au musée des Beaux-Arts de Chartres. C'est une œuvre donc du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle. Donc, il montre Sainte-Lucie. Et Sainte-Lucie, elle est extraordinaire parce que Lacan, c'est dans un séminaire sur l'angoisse qu'il parle de Sainte-Lucie, comme il parle d'ailleurs de Sainte-Agathe aussi, qui a eu les seins coupés. Elle, c'est les yeux qui ont été arrachés. Mais au lieu d'en faire un portrait de martyr horrible, expressionniste, etc., Zurbarán en fait un sujet extrêmement calme. C'est-à-dire que Lucie a les yeux fermés, évidemment, elle a été énucléée, donc, mais il montre pas le côté horrible de l'énucléation. Elle a les yeux.
Elle a l'air très sereine.
Et elle, dans son plat, ses yeux sont déposés. Ces yeux sont déposés non pas comme des yeux ou des œufs sur un plat, mais ces yeux, quand vous regardez bien, nous regardent. Mmh. Et ça, c'est toute la position de Lacan, la question du regard. C'est-à-dire, le regard est un dépôt chez Lacan. Et nous-mêmes, d'une certaine manière, nous sommes donc conviés à déposer à notre tour notre regard dans ce tableau.
Il y a beaucoup, beaucoup d'objets dans cette exposition, des artefacts très différents, des textes, des photographies, des objets, des installations, des néons, d'époques également très différentes. Et toute la scénographie est ponctuée de phrases de Lacan qui éclairent ou proposent un écho aux œuvres qu'on est en train de regarder.
Je suis Gérard Wajmann, je suis psychanalyste et j'étais enseignant au département de psychanalyse de Paris 8.
Et vous avez participé au montage de cette exposition Lacan ?
J'ai participé, j'étais co-commissaire avec les trois autres camarades.
Alors, est-ce que pour des auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas Lacan, qui ne l'auraient jamais lu, est-ce que l'art est une bonne porte d'entrée pour découvrir sa pensée ?
C'en est une, en tous les cas. C'en est une absolument, parce que Lacan est quelqu'un qui a pris l'art au sérieux. Pour lui, c'était pas un divertissement, c'était pas même une élévation d'âme, contrairement d'ailleurs d'une certaine façon à Freud. Pour Freud, l'art, c'était exaltation de la beauté, etc. Chez Lacan, c'était autre chose, et dont il a fait à chaque fois, dans tous les séminaires qu'il a pu prononcer, tout son enseignement est rempli de références à des œuvres qu'il a traitées finalement comme des concepts de la psychanalyse. Quand il parle des Ménines de Velázquez, c'est pas pour faire le malin et de commenter une œuvre artistique, c'est pour dire les Ménines font partie du discours analytique. C'est tout de même extraordinairement audacieux de faire de Velázquez un grand psychanalyste du XVIIe siècle. Oui. Eh ben, c'était son genre. C'est ce qu'il a fait. Quoi de mieux ? Alors, on peut s'intéresser à Lacan par d'autres voies, par la clinique, parce qu'on est, formé comme psychologue ou comme psychiatre, tout ce qu'on veut. Mais quand on n'a aucune idée de qui est Lacan, découvrir que Lacan avait un rapport à l'art est une manière, en effet, d'entrer tout à fait dans ce qu'était sa pensée. Qu'un artiste soit lacanien, ça, c'est nous qui pouvons le dire, mais ça peut être malgré eux. Ils peuvent très bien dire, mais pas du tout, je m'en balance.
D'ailleurs, dans l'exposition, vous avez choisi quelques œuvres contemporaines qui vous semblent résonner avec la pensée de Lacan, mais là, c'est un choix de commissaire.
C'est un choix de commissaire, mais le problème, vous avez raison, on a fait un choix, bien entendu, puisque toute exposition suppose ça. Mais moi, j'aurais plutôt l'idée que toutes les œuvres sont lacaniennes. Il n'y a pas que celles qu'on montre. On aurait pu en montrer beaucoup d'autres, y compris donc de la part de gens pour qui la psychanalyse, ça leur est équilatéral. Ils s'en moquent comme de l'an 40. Mais les œuvres elles-mêmes parlent de quelque chose.
Lacan, l'exposition se visite au Centre Pompidou à Metz jusqu'au 27 mai et elle est accompagnée d'un catalogue publié aux éditions Gallimard.
Merci Marie Sorbier. On vous retrouve demain à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris pour nous faire visiter la rétrospective consacrée au photographe américain Ouidji. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Roubertier.